France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet.
Marion Muller-Collard. J'ai 48 ans. J'ai une formation de théologienne. J'ai fait plein de choses assez différentes dans ma vie. Aujourd'hui, je suis éditrice à Genève pour la maison d'édition Labor et Fides.
Premier épisode, le grain de sel. Vous êtes tout ça, Marion Muller-Collard, mais c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit et qui me semble quand même important, c'est que vous êtes écrivaine. Vous êtes l'autrice d'une vingtaine de livres en forme d'écrits pour la jeunesse, de romans ou d'essais poétiques qui mêlent théologie et vécu propre. Alors merci d'abord d'avoir accepté cet exercice de parole au long cours. Vous nous recevez, il faut peut-être le dire, on va en parler dans quelques instants, vous nous recevez chez vous, dans un lieu tout à fait singulier, sur les hauteurs de l'Inntal, dans les Vosges alsaciennes, que vous alternez avec Genève, où vous dirigez la maison Labor et Fides, la maison d'édition. À ces deux lieux, il convient d'ajouter ceux que vous avez précédemment fréquentés, les hôpitaux de votre jeunesse, puisque vous avez longtemps été aumônière à l'hôpital, le Conseil consultatif national d'éthique, dont vous avez été membre, et la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, où vous avez siégé. Avant de commencer, j'aimerais aussi dire quelque chose. Vous avez dit votre âge vous-même, vous êtes encore jeune, moins de 50 ans, mais vous avez, si vous me le permettez, une profondeur de pensée d'une vieille sage. Et si vous ne descendiez pas tout le temps dans la vallée genevoise d'à côté, je dirais d'une vieille sage recluse en haut de sa colline. Et c'est cette sagesse, loin évidemment de tout prosélytisme, que nous venons chercher à un moment de perte des repères, d'intranquillité et de confusion des esprits. Alors pour commencer, Marion Muller-Collard, je vais vous poser une question qui pourrait nous occuper 2h30, je pense. Qu'est-ce que vous trouvez dans les textes bibliques, dans les évangiles, que vous ne trouvez pas dans la philosophie ou dans la littérature?
Ouh là là. On commence par la face nord. Je ne sais pas si j'emploierais ce mot de sagesse, alors certainement pas pour me définir moi-même, mais pas non plus pour définir ces textes-là. Peut-être que ce qui me tient à cœur, ce qui me fait redire oui, en fait, sans arrêt à cette alliance particulière qu'est la foi chrétienne pour moi, et ce qui me fait retourner vers cette grande bibliothèque qu'est la Bible, c'est que le tragique y est pris au sérieux. Bien sûr qu'il y a une dimension philosophique aussi dans ces textes, et ils peuvent se lire comme ça, ils peuvent se lire comme une philosophie. Et si ça devait être une philosophie, alors elle aurait ça de particulier que de ne pas chercher tellement à résoudre le tragique, en fait, et encore moins à l'esquiver. Et une autre dimension toute bête, vous l'avez dit, c'est vrai, c'est un lapsus, une omission folle de ma part de ne pas avoir dit que j'étais autrice. Parce que la littérature est peut-être ce qui domine ma vie, en fait, comme lectrice. Si j'étais obligée vraiment de choisir entre la littérature et la théologie, je choisirais la littérature. Et ce qui me permettrait d'ailleurs d'encore choisir la Bible, puisque c'est aussi un texte de littérature. Et cette dimension narrative, cette prise au sérieux de notre désir d'entendre des histoires, dont on croit que c'est un désir d'enfant, et je crois que c'est un désir qui court tout au long de notre vie, fait aussi partie de mon attachement à ces textes-là. J'aurais plus de difficultés à m'inscrire dans une tradition qui n'aurait que des textes de type discours, en fait, de type essai. La Bible, c'est des histoires rocambolesques et souvent tragiques. Et qui viennent, en fait, forer rebattre en fait cette patte humaine qui est encore la nôtre aujourd'hui. Donc oui, je crois que c'est pour ces deux raisons que je continue de souscrire. Voilà. Et une troisième qui est que j'ai 48 ans, je vais pas recommencer à zéro. Vous trouvez que je suis jeune, tout est relatif. Pour mes enfants, je suis plutôt vieille. Et en fait, en tout cas, il y a au moins un sentiment de mi-vie dans le meilleur des scénarios qui fait que C'est notre slogan d'ailleurs ici dans ce lieu particulier où je vous reçois en effet, c'est de faire avec l'existant. À un moment donné, moi j'ai plus l'énergie, j'ai été longtemps dans une phase où je me sentais créatrice en fait. Et puis plus on avance en âge, plus on découvre que ce qu'on on n'invente pas grand-chose, on rebat les cartes en fait, on réarticule différemment des choses qui ont déjà été pensées par d'autres, dites par d'autres. Et cette question de la tradition au sens de l'ancrage, c'est peut-être quelque chose qui me rattrape à ma plus grande surprise dans ce moment où j'entre plutôt dans une phase de transmission que d'initiative, quoi.
Alors parlez-nous de ce lieu si particulier qui fait avec l'existant où nous sommes. C'est un écolieu.
Ouais, on dit ça
comme
ça. Qui est
une ancienne colo.
Oui, c'est ça. On appelle l'écolieu la colo parce que c'est une allitération qui nous fait rire. Je sais pas très bien, aucun de nous ne sait très précisément ce qu'est un écolieu, mais en tout cas, ce qui nous a motivés, on habite avec mon mari ce village depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est là que nos enfants ont grandi, tous les deux. C'est pas là où ils sont nés, mais c'est là où ils ont grandi. Et il y avait cette colo devant laquelle on passait régulièrement, qui était vide depuis les années 2000. Et en fait, elle a suscité un rassemblement de différentes personnes qu'on connaissait peu ou pas d'ailleurs, pour se dire c'est dommage, on va pas laisser ça tomber en ruine. Elle est là sur cette montagne dans un lieu qui est très beau, qui est encore très sauvage, très préservé. Mon père dit c'est là que le bon Dieu a perdu ses godasses. Je trouve que c'est c'est une belle illustration. Donc il y a ce côté un petit peu effectivement reculé, cette hauteur, ces très beaux paysages, une faune et une flore encore assez préservées. Et ce bâtiment horrible au milieu, enfin des années 70 à l'époque, on trouvait qu'il y avait aucun problème de couler autant de béton et de mettre des radiateurs électriques partout. Et voilà, on a été plusieurs à se retrouver autour de cette aberration en fait, et de la transformer en opportunité, de recréer quelque chose avec ce slogan effectivement de faire avec l'existant, de pas tout péter pour refaire exactement comme nous on aurait envie. Aussi, bah ça me renvoie à la tradition, c'est un lieu qui a une histoire et on a envie de respecter cette histoire. C'était joli d'ailleurs l'été dernier, il y a un couple qui est venu et qui s'était rencontré ici et qui était heureux de voir que la vie reprenait et que ce lieu où eux, ils ont été moniteurs de colo et ils sont restés ensuite en couple, maintenant ils ont 3 enfants, que ce lieu en fait devient quelque chose, ne disparaît pas. Ça devient autre chose, mais voilà, ça tombe pas en ruine. Et on s'y rassemble tous avec des activités qui touchent à l'artisanat. Faire avec l'existence, c'est faire avec l'existant humain. C'est aussi faire les uns avec les autres. C'est un énorme travail.
Oui, parce qu'il y a plusieurs familles.
Il y a plusieurs foyers.
Il y a plusieurs appartements. Ouais. Il y a plusieurs maisons qui sont là. Donc, c'est comme une communauté.
Non, pas communauté, parce qu'on ne met pas nos vies privées en commun, en fait. On est plutôt dans une démarche de collective, c'est-à-dire une gestion collective d'un bâtiment et de certaines activités associatives ou des activités plutôt type artisanale pour valoriser en fait notre environnement immédiat et en faire profiter un maximum de personnes.
Donc c'est un peu moins qu'une communauté, un peu plus qu'un immeuble avec de simples voisins.
Exactement, c'est ça.
Est-ce que pour vous, Marion Muller-Collard, c'est un refuge aussi, c'est un lieu reculé, vous avez dit. Est-ce que ça, vous le vivez comme un endroit qui est presque protégé du reste du monde avec son chaos et son fracas?
Je dirais pas ça comme ça, c'est une base arrière. Et surtout, le chaos et le fracas, j'ai l'impression que la meilleure façon de le vivre, c'est pas de chercher des refuges, c'est de changer d'échelle régulièrement. C'est qu'en fait, on est tous et toutes mobilisés à l'échelle mondiale par rapport aux enjeux, les enjeux de notre avenir, en fait, de notre actualité, de nos avenirs. Et on est en fait saturé d'informations plus que ce qu'on peut en absorber, ce qu'on peut en comprendre. Et en même temps, on a ce devoir quand même de se tenir informé, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de rester connecté à cette échelle mondiale puisque c'est celle où les choses se jouent tout simplement aujourd'hui. Et le problème de cette échelle, c'est qu'elle alimente un sentiment d'impuissance quand même très fort. Et donc, à la fois, il faut être capable de l'investir, cette échelle-là. Et en même temps, je crois qu'il faut qu'on trouve tous dans nos vies des échelles qui nous permettent de revivre l'impact direct de nos actions. Sinon, on va être découragé. Voilà. Et donc, quand on travaille ou quand on pense à des échelles trop hautes, il faut pouvoir compenser. Enfin, je me le raconte comme ça, en tout cas, compenser en ayant des actions à des échelles beaucoup plus locales. Et pour moi, c'est ça, ce lieu. C'est pas un refuge parce qu'il est exigeant. Il est très exigeant humainement. On s'est associé. On doit prendre des décisions importantes avec des gens qu'on connaissait à peine, qui ont tous des profils socio-professionnels et des histoires très, très différentes. Et ça, j'y tiens beaucoup, cette diversité-là. Donc, ça nous met à l'épreuve de l'altérité de façon quasi quotidienne. Donc, j'appellerais vraiment pas ça un refuge. En revanche, c'est une super belle école de l'action et qui est gratifiante. Parce que, en tout cas, les étapes entre les actions et les réactions, elles sont beaucoup plus réduites qu'à l'échelle, par exemple, de mon métier d'éditrice. Donc voilà, pour mon équilibre personnel et ma santé mentale, j'essaye de varier les échelles. Donc là, c'est la plus petite échelle. Enfin, la plus petite échelle, c'est peut-être la famille, mais c'est pas un endroit de société ni politique. Alors que l'écolieu, ici, c'est quand même un lieu politique au sens large du terme. Ouais.
Là, vous êtes face à la vue.
Ouais.
Vous, quelle chance. Faites-nous en profiter. Qu'est-ce que vous voyez?
Je vois beaucoup de brouillard.
Alors, derrière le brouillard, parce qu'il n'y en a pas toujours.
Eh ben, je devine, parce que justement, c'est ça la puissance de l'imaginaire, c'est que je les connais, ces paysages. Et ce que j'aime, c'est leur caractère imprévisible, en fait. Et j'ai arrêté de vouloir dicter sur la montagne mes impératifs intérieurs. Et j'ai appris à aimer toutes les météos, en fait. Et c'est aussi le privilège de vivre en proximité avec une ferme, de sentir qu'en fait, il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien de superflu, en fait. Il n'y a pas un jour superflu, il n'y a pas une météo superflue. Elle ne m'arrange pas trop, cette météo, c'est sûr. Cette petite pluie un peu glaçante n'est pas celle qui est la plus confortable pour nous autres pauvres humains, mais voilà, on a une conscience. Moi, je vois aussi beaucoup de promenades que j'ai faites, je vois beaucoup de nuits passées dehors, d'aventures avec nos enfants, avec nos chèvres quand on avait des chèvres. Je vois toute une épaisseur de temps aussi. Mais je ne vois pas le sommet des Vosges qu'on peut voir par temps clair, qui est le ballon d'Alsace, qui culmine à pas grand-chose, puisque je fais les allers-retours avec la Suisse. Pour les Suisses, c'est des collines, tout ça, voilà.
Là, pour l'instant, on est quand même en Alsace, on n'est pas en Suisse, hein, Marion Müller-Collard. L'Alsace, le lien que vous entretenez avec cette région, ben, vous vient de vos études, puisque vous avez étudié la théologie à la fac de Strasbourg. Oui. Mais en fait, vous êtes née à Marseille, vous avez vécu 3 ans, puis à Crêt, dans la Drôme, puis à partir de vos 8 ans à Valence, donc vous êtes plutôt une petite fille du Sud. Ce qui vous relie entre la Drôme et l'Alsace, c'est peut-être ce lien que vous avez avec la nature, parce que quand vous étiez petite, vous disiez que vous étiez une sauvageonne.
Oui, effectivement. Effectivement, j'ai grandi. L'émergence de la conscience chez moi s'est faite non pas à Marseille, mais effectivement à Cré, au pied du Vercors. Et on vivait dans un lieu assez, assez isolé aussi. Et donc j'avais un sentiment d'immense liberté, il y avait ce rapport à la montagne aussi, ce rapport à la hauteur, à quelque chose de massif qui domine, qui protège, qui arrête quelque chose, qui rend humble un petit peu. Je sais d'ailleurs que c'est vraiment en regardant ces montagnes-là que j'ai eu ce sentiment de grandeur et que quelque chose d'une foi non élaborée a émergé pour moi, en fait. Ça, et les étoiles avec mon grand-père qui m'expliquait les constellations, etc. Donc toutes ces choses très très grandes, dont on sent qu'elles sont totalement indifférentes à nous. Moi, ça me fait beaucoup de bien de revenir dans des situations où je sais que les étoiles, la montagne, etc., me replacent non plus tellement sur une échelle de grandeur, quoique, mais sur une temporalité aussi qui me fait acquiescer à ma finitude. Tout ça, ça restera. Voilà, c'était là avant, ce sera là après. Donc de reprendre aussi du champ comme ça, avec mon inimportance, ça me fait du bien. Et j'ai grandi comme ça. Et c'était une belle école, ouais.
J'ai intitulé ce premier épisode de Nos Avoines Nues, Le Grain de Sel, parce que j'ai lu que vous étiez surnommé le grain de sel quand
oui,
vous étiez
c'est
petite.
Drôle, mais ça me paraît fou que cette information soit arrivée jusqu'à vous, mais c'est que j'ai dû le dire un jour ou l'autre. Oui, c'était mon petit nom de famille, mais je pense que c'était relié à une curiosité insatiable. Je pense que j'étais une enfant fatigante parce que très peu satisfaite des réponses qu'on pouvait me donner. Et voilà, mais c'était dit avec beaucoup de tendresse. Mais c'est vrai qu'il fallait que les choses, fallait que je comprenne. C'est une crise d'enfance dont je me suis pas tout à fait remise encore, qu'il y a des choses auxquelles il n'y a pas de réponse, quoi. Ça c'est toujours encore difficile. Je sens que la petite fille en moi continue, en fait, à trépigner, à me dire, mais c'est pas possible, quelqu'un va bien m'expliquer ça. Et oui, donc je mettais un peu mon grain de sel partout, j'étais un peu bavarde. Curieuse, aventureuse et solitaire en même temps, bizarrement.
La foi, vous l'avez toujours eue, Marion Muller-Collard ?
Mais je crois, en fait. Je crois justement que, à la fois, elle a été la culture protestante, elle a été importée de force et de façon extrêmement maladroite, je pense, par mes grands-parents, les parents de mon père, qui étaient. Mon grand-père était pasteur. C'est difficile hein, de démêler la façon dont les choses ont, en l'occurrence, sauté une génération entre mes grands-parents et moi. Mais je crois que quelque chose qui relève pas de la culture, mais de peut-être dans un autre langage plus juridique, on dirait de l'intime conviction, c'est par contre quelque chose qui me semble avoir été assez originel chez moi et relié. Non pas à la dimension de la consolation, qui est quand même la carotte la plus souvent mise en avant et promise dans le discours religieux, mais plutôt la question de... Oui, ce sentiment de grandeur. Et c'est marrant parce que vous avez fait allusion au fait que j'ai été aumônier d'hôpital et une des visites qui m'a marquée, c'était en maternité, bizarrement, où tout allait bien. Et une maman m'avait fait appeler. Et je me suis dit, mince, j'espère qu'il n'y a pas un problème avec le bébé. Le réflexe, je représente une entité religieuse, une fonction religieuse. Et donc, si on m'appelle, c'est que ça ne va pas bien. Quoi. Et en fait, cette femme me dit, mais j'ai besoin de dire merci. J'ai besoin d'un témoin pour cette gratitude que je ressens depuis la naissance de cet enfant. Et je me suis rendu compte que moi, ça s'est passé comme ça aussi. Et que c'est resté le tropisme de ma foi. C'est plutôt de la douleur... de pas pouvoir attribuer un sentiment de reconnaissance quand les choses sont belles. Il y a cette question du mal, bien sûr, mais il y a aussi cette question du bien, c'est fou. C'est fou, en fait, les moments où la bonté et la beauté prennent le dessus. Et je crois que ça m'est arrivé très tôt dans ma vie. Voilà, et c'est plutôt... dans cet angle-là que je me suis pas résolue à penser que tout pouvait être le fruit d'un hasard biochimique, même si je n'arrive pas à orchestrer du sens, un sens qui soit cohérent, même si ma foi ne m'a jamais permis d'accéder à quelque chose, à une grille de lecture qui soit cohérente, parce que ça, de toute façon...
pas les réponses aux questions que vous posez, quoi.
Non, bah parce que ça, en fait, très très vite, deux pas de plus, et on est dans le fascisme total, donc... Donc voilà, mais
c'est
en tout cas,
c'est une foi qui doute, ça voulait dire. C'est pas une
ben, c'est-à-dire qu'une grille de lecture de l'existence totalisante et cohérente, c'est effrayant. En tout cas, j'en ai jamais trouvé qui arrive à conduire l'ensemble de l'humanité vers quelque chose qui puisse ressembler à l'harmonie. Donc pour l'instant, toutes les expériences de ça ont toujours été en fait catastrophiques. Donc je ne tends pas à ça, mais en revanche, oui, pouvoir relier à ce que j'imagine être un dieu. Et à ma foi chrétienne, toute forme de reconnaissance vers ce qui va pas si mal et même vers ce qui, de temps en temps, est carrément époustouflant, ça a commencé très tôt.
Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a appris, ça, Marion?
Je crois pas,
dans la
justement.
Famille, ou ça vous est propre?
Non, j'ai l'impression que ça m'était assez propre. Parce que justement, c'est cette foi-là qui n'était pas encore abîmée, qui n'était pas encore reprise au compte de la religion avec toutes ses obsessions, ses discours, cette espèce de peur panique. Ma grand-mère a été terrifiée à l'idée que on soit pas chrétien. Donc comme mes parents ne l'étaient pas et me donnaient pas d'éducation positivement religieuse.
Plus que ça, parce que votre mère qui venait d'un catholicisme rural avait rejeté en bloc en étant athée et anticlérical.
Oui.
Et votre père, vous avez dit qu'il était fils de pasteur. Il était plutôt agnostique, mais ouais. En tout cas, il tenait la religion assez loin de lui, c'est
oui,
ça?
Oui, parce que ça avait été, en fait, un traumatisme. En fait, moi, ce qui s'est passé, vraiment, d'un point de vue purement biographique, c'est que je pense qu'au-dessus de mon berceau se jouait le pire et le meilleur de la religion, en fait. Et que c'est, en fait, cette tension qui a guidé la plupart des choses que j'ai fait dans ma vie, en fait. C'est cet écartèlement entre ce que la foi peut produire de meilleur et ce qu'elle peut produire de pire à l'intérieur d'une seule et même personne. Si je pense à ma grand-mère, par exemple, il y a des aspects de sa foi qui étaient absolument remarquables et ils ont été résistants, mes grands-parents, et ça a évidemment complètement à voir avec leur foi de chrétien, pour eux, hein, en tout cas.
Résistants et justes parmi les
ouais,
nations.
Ouais, ils ont été faits justes parmi les nations. Et en même temps, ils avaient des aspects terrifiants, ils étaient pris dans cette espèce de culpabilité, d'un surmoi. Enfin voilà, il y a des moments où on se dit, mais en fait, la religion, est-ce autre chose qu'un surmoi? Oui, de l'opium et un surmoi, une façon de cadrer, de promettre et de menacer qui est assez efficace à court terme sur les communautés, sur les individus. Mais parallèlement, il y a eu cette espèce de jouissance, en fait, d'exister, d'en prendre plein la vue, plein les pores de la peau, plein les poumons, les champs de colza au pied du Vercors, cette poésie-là et cette fébrilité de vivre, en fait, pour moi, était de l'ordre de la foi, en fait.
C'était donc votre façon de vivre la foi, en tout cas. En tous les cas, c'est peut-être aussi ce qui vous a orienté assez tôt, à vos 18 ans, tout est tôt, assez tôt à vos 18 ans, parce qu'il a bien fallu faire des choix, vous qui adoriez la littérature et la philosophie, vers la théologie.
Oui, parce que c'était un peu philo option Dieu. Et puis, comme je suis un peu radicale, j'ai pas toujours été. Enfin, voilà, je pense que j'étais une petite fille croyante. Après, j'ai laissé tomber comme il faut, et parce que ça collait pas justement. Puis après, je me suis dit, ok, c'est peut-être pas fait pour coller. Et je suis re-rentrée par la langue, en fait, par les mots, par la langue, vraiment. Par ses récits, par le livre de Job, j'en apprenais des bouts par cœur. Certaines paraboles des évangiles, etc. Et donc, j'ai pris ça excessivement au sérieux et je me suis dit que j'allais les étudier, ces textes. Mais ce n'était pas un projet du tout professionnel. Je voulais être prof d'allemand. À l'époque, ça me paraît surréaliste. Je crois que je n'arriverais même plus à faire 3 phrases d'affilée en allemand aujourd'hui. Mais à l'époque, j'avais plutôt un bon niveau d'allemand. Et je me suis dit, je vais faire un double DEUG, allemand, théologie, à Strasbourg. Et puis, pour plein de raisons... ça a fini par être théologie. Je me suis dit, je fais un an, puis après, je reprends des études un peu sérieuses, enfin, professionnalisantes. Sur le marché du travail, quand même, la théologie, c'est pas le truc le plus vendeur qui soit. Et en fait, j'arrivais pas à m'arrêter. Et j'ai poussé quand même jusqu'au doctorat en me disant, mais qu'est-ce qui va se passer après? Enfin, voilà, je me suis inquiétée à outrance, alors que, bizarrement, c'est une formation qui m'a vraiment, non seulement profondément formée, en plus offert beaucoup d'opportunités que j'aurais jamais pu imaginer à l'époque. Ouais.
Qu'est-ce que vous devez aussi, à côté de la religion, ou plutôt des tensions autour de la religion dans votre famille, qu'est-ce que vous devez, Marion Muller-Collard, aux professions, ou à la profession de vos parents? Je crois que tous les deux étaient éducateurs spécialisés. Mmh. Votre père, c'était plutôt auprès de la délinquance, et votre mère dans le handicap, ouais. C'est ça? Qu'est-ce que vous devez à ça, si vous le devez quelque chose?
Je suis sûre que je dois quelque chose. J'ai longtemps voulu penser que non, mais là aussi, en vieillissant, je me rends compte. Enfin, j'en ai fini avec le mythe de l'auto-engendrement. J'ai vu des parents réfléchir, j'ai vu des parents s'engager. Chercher des solutions, si bien que ça m'a paru être la façon normale d'entrer en profession, d'être sérieux. Je déchante quotidiennement en me rendant compte que c'est une option parmi d'autres. Mais en tout cas, j'ai été élevée dans le sens de l'engagement, le travail était aussi un engagement. C'est pas seulement un gagne-pain, en l'occurrence parce que ça touchait à des questions de société, là aussi, d'inclusivité, de réinsertion. Mon père a beaucoup réfléchi à la question de la réinsertion, en fait, pour sortir du cercle vicieux des parcours de délinquance. Et ma mère a la question du handicap, de la différence. Et je les ai vus vraiment se donner la peine, se donner de la peine, pour du mieux, quoi, en fait, auprès de populations vulnérables de façon différente, mais toutes les deux vulnérables. Donc, j'ai grandi dans un milieu qui avait ce tropisme-là du soin de l'autre, quoi. Et ça me paraissait évident. Voilà, maintenant, avec le recul, je me rends compte que ce n'est pas anodin, oui.
Et comment ces deux parents, qui ne vous ont transmis aucune culture religieuse, regardent-ils ou ont-ils regardé la jeune étudiante en théologie que vous êtes devenue ?
Je pense mon père avec une forme d'étonnement amusé et peut-être une émotion plus grande qu'il n'y paraissait. Peut-être que je permettais de rendre intelligible quelque chose qui avait viré à l'absurde pour lui. Et ça me fait bizarre de dire ça parce que c'est peut-être aussi un petit peu ce qui s'est passé avec mon mari qui est aussi fils de pasteur en fait. Qui a fini par me dire, tout en restant résolument agnostique, mais que à force d'échanges entre nous, il était devenu sympathisant du Christ. Voilà. Mais pas chrétien, sympathisant du Christ. Voilà. Et je pense que l'un comme l'autre, peut-être, en tout cas, c'est pas rien dans leur vie que quelqu'un avec qui ils sont liés, tous les deux, nécessairement, mon père parce que je suis sa fille, mon mari parce que je suis sa femme, puisse ramener, en fait, un certain aspect de cette culture de la foi, de cette culture protestante, sans que ça fasse offense à la raison, à la relation, sans que ça prenne des tournures violentes comme ça a pu prendre dans leur vie de fils de pasteur. Là, ils ont ça en commun, mon père et mon mari, d'avoir été fils de pasteur. Pour ma mère, ça a été quand même une couleuvre à avaler sur le coup, ça... Ça, je pense assez clairement. Donc, c'est elle qui m'a poussée à aller à Strasbourg, puisque l'Alsace a ce statut particulier du Concordat qui fait que la faculté de théologie y est une faculté d'État. Ce qui a été bien vu de sa part pour plein de raisons. Et donc, j'ai consenti à ça pour amortir le choc. Et puis, aujourd'hui, je crois que ça s'est mélangé de tant d'autres choses. Je ne sais pas. Je peux pas dire à sa place.
En tout cas, dans cette faculté de théologie à Strasbourg, vous y restez un certain nombre d'années. Vous passez donc un doctorat, Marion Müller-Collard, obtenu en 2006. Vous y étudiez notamment le livre de Job, et c'est ce dont on parlera dans l'épisode suivant. Merci beaucoup.
Merci
à vous. Et à demain, à suivre l'épisode 2, Job, l'autre Dieu. C'était À Voix Nue avec Marion Müller-Collard, réalisation Guillaume Baldi, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.